Attachez vos ceintures et vivez l'aventure automobile jusqu'à 22h sur Indestar.
Starter en direct et en podcast sur indestar.fr.
Soyez les bienvenus dans Starter sur Indestar jusqu'à 23h. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon week-end. Est-ce que Teddy a... Bug ? Mon micro a l'air de bugger, non ?
Oui, lui, il a pas passé un bon week-end pour
micro. Il a pas passé un bon week-end, je vais changer de câble,
oui.
Je pense que
vas-y,
ça
sera
mieux.
Amuse-toi. Donc ouais, mon week-end, eh ben écoute, il s'est plutôt bien passé, t'en sais quelque chose, parce que effectivement, on a été dans un endroit, en voiture évidemment.
À la foire.
À la foire expo.
Ah oui.
On a été voir quoi ? Ah non, on n'a pas été voir des voitures.
On n'a pas beaucoup de voitures, par contre, beaucoup. On a vu des objets roulants de type camping-car, caravane et tout et quanti.
Oui. Ouais. Ah, ma copine a pu faire du quoi ? Du scooter.
Non, oui, mais en miniature.
Non, des vrais.
Ah bon ?
Ouais. Bah. C'est les flics, enfin les...
T'es sûr que c'est pas des miniatures ?
Pourquoi des miniatures ?
Bah parce que moi
c'était
j'avais...
des vrais scooters ?
Non mais moi j'avais fait du quoi des motos miniatures.
Ah non c'était des scooters. Là c'était des scooters.
Bah bon, par contre ta sœur m'a relayé l'idée que c'était des mini-motos.
Bon je sais pas mais bon après tout...
Bon c'est la sécurité
ils
routière qui organisait ça et voilà. Et c'est compliqué hein, parce que les mini-motos, le centre de gravité étant... les motos étant plus basses et plus près du centre et du coup c'est vachement
mais
plus sensible.
C'est des motos, ils ont des pédales.
Hein ?
Des pédales, une barre tu sais pour changer les vitesses. À pied.
Une barre pour changer les vitesses.
Tu sais, quand t'es en scooter, t'as tes pieds.
Oui.
Tes pieds, tu t'en sers pas.
Oui.
Sur une moto, techniquement, je pense que c'est ça la principale différence, c'est que tu te sers de ton pied pour changer les vitesses.
Oui.
Normalement.
Oui. Tout à fait.
Très bien conduit une moto, mais bon.
Non, mais si, alors c'est pas que la seule différence, mais oui, c'est ça ouais, l'idée.
Mais
ouais.
C'est technique, apparemment, faut appuyer pour mettre la première et remonter petit
ouais,
à petit, enfin, je sais pas.
Ouais.
Mais il va galérer, apparemment.
Ah bah quand tu l'as jamais fait, c'est un peu chiant. Après, ouais. Tu t'y habitues, mais moi qui ai passé ma licence.
Ma licence.
Ouais, c'est pas vraiment un permis, c'est une licence 125. Voilà, c'est
ça tout. Ça lui donne le droit de regarder les motos.
C'est tout ce dont je possède en moto, mais il fallait que je la passe pour pouvoir conduire une 125.
Certes.
Donc, ouais, on c'est vrai qu'on a fait un peu de deux roues, enfin pas nous personnellement, mais.
On a monté dans les caravanes.
Caravanes, camping-car, fourgons aménagés.
La totale.
Ouais, c'était sympa.
On a regardé les aménagements, on s'est imaginé, tiens, mais si on faisait ci, comme ça. Ah, et là, ça va le foutu.
Il nous manque juste 60 000 euros sur 65 000.
C'est vrai.
C'est un peu la seule là où le bas blesse quoi.
Ouais. Oui. Mais à part ça, tout va.
À part ça, c'était cool. On est d'accord.
Starter, le sondage.
Bon, comme toutes les semaines, on vous avait posé une question sur les réseaux sociaux la semaine dernière, enfin cette semaine, en story Facebook, Instagram, Indestar sur Facebook et Indestar Radio sur Insta. La question était, achèteriez-vous un modèle rare ? Parce qu'on avait parlé des modèles rares la semaine dernière en disant que bah, c'était peut-être un peu pas très pratique de trouver des pièces, pas
non.
Certaines fois.
Oui.
Voilà, par contre, c'est le coup d'avoir une voiture un peu unique,
ouais,
personne n'a la même.
Royale.
La pète royale, on est Saint-Stanzan, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est 50-50, hein, vous avez été même nombre à voter pour et à voter contre. Donc voilà, vraiment là il y a pas, on ne départagera pas ce soir.
Le truc c'est de prendre une Clio unique.
Ouais.
Mais une Clio quand même.
Je sais que ça existe mais souvent c'est des versions modifiées,
oui.
Des fois pas totalement légales mais genre Clio limousine ou des Clio cabriolet ou des choses comme ça. Ouais.
Non mais genre un truc qui la rend unique.
Ouais.
Qui au final la plupart des pièces tu les trouves ailleurs.
Ah là tu vas donner tu vas donner des idées d'autocollants de flamme dessus. Je sais pas
le
si c'est.
Tuning.
Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. en tous les cas, merci pour vos votes. Prochain sondage à la fin de cette émission.
Starter, les brèves.
Quelques brèves de l'actualité automobile, parce qu'il y a de l'actu, évidemment, comme chaque semaine. Teddy, t'as quoi pour nous ?
Alors moi j'ai de la destruction parce que c'est ça que je kiffe.
De
quand
la
même.
Destruction, vas-y.
Oui, détruire des véhicules notamment. Oui, nos casses françaises détruisent des véhicules.
Ouais.
En 2021, ils en ont détruit 850 000. C'est pas mal, ça fait une moyenne de 2300 par jour. Alors, 2300 par jour, dont 61% de diesel. J'aime bien les chiffres ce soir. Ce soir, je veux des chiffres. Donc 61% de diesel.
Et parce que c'est... des diesels, c'est pas l'avenir.
Ouais, bah ouais, clairement, ils en détruisent le plus possible, hein, clairement.
Mm-hmm.
Sur les 850 000, t'en as 114 800 qu'ils ont été envoyés en casse, qui roulent, hein.
D'accord.
C'est juste qu'ils ont été envoyés là-bas à cause de la prime de conversion. Ouais.
Ah oui, bah oui.
Ça,
tu sais que ça fait beaucoup de mal. Alors là, bon, ça, pour certains modèles, voilà. Mais dans les années, si on regarde un petit peu en arrière, dans les années 90,
ah ouais, ça devait être énorme encore.
Les prises, c'était pas les primes à la conversion, c'était je sais plus comment ça s'appelait, mais primes à la casse, quoi, en gros. Et ouais. On a beaucoup de modèles qui aujourd'hui on aimerait bien avoir en collection, mais qui ont été mis à la casse dans ces années-là parce que voilà, c'était moins. Enfin, pour l'utilisateur, ça lui faisait un nouveau prix plus intéressant sur sa nouvelle voiture, donc l'autre était détruit et voilà, ouais. Fin de vie.
En moyenne, c'est des voitures qui ont la vingtaine.
Ouais.
Enfin, la moyenne, hein, voilà. Et j'ai un petit classement des 10 voitures les plus envoyées à la casse.
D'accord, vas-y.
Alors, dites. Déjà, c'est quasiment que des françaises. Hein.
Ouais.
Il n'y a que les trois dernières où c'est pas des françaises. Donc, d'après toi, la première, c'est quoi? Qu'est-ce qui a envoyé le plus à la casse en 2021?
J'imagine que c'est des voitures qui ont été beaucoup produites aussi. Donc, je dirais une Clio.
Clio, c'est la deuxième avec 10%.
Une 206 alors.
206, c'est la troisième avec 6%.
Aïe, quelle est la première? C'est pas une Twingo quand même?
Twingo, c'est la cinquième avec 3%.
Okay. Je sais pas ce qui pourrait être en première.
Mégane?
Une Mégane?
Ouais.
Ah ouais?
12%.
Ok.
Ouais, pas mal. En quatrième, t'avais la Xara, 4%. Et après, alors, en dessous de 3%, je me suis pas emmerdé à prendre les pourcentages. Parce qu'en ouais. plus, j'ai dû calculer moi-même les pourcentages.
Ah, alors, ah ouais, ouais, quand même. Voilà.
De tête, hein, s'il te plaît.
S'il vous plaît, attention. Sans problème. Hein. Calculateur dans l'émission. Hein.
T'as les Laguda, j'étais un peu très jeune.
Ah mince.
306, 307, la Corsa, la Golf et la Fiesta. Donc on se retrouve effectivement des voitures.
Ouais.
J'allais dire du PAF, mais non pas du PAF, du paysage audiovisuel routier.
Exactement.
Du phare. Du
phare. Non mais c'est ça, et puis surtout des modèles qui ont été énormément produits.
C'est
tu
logique.
Trouve pas des
tu vas
modèles
pas
trouver
rares. Des
Ferrari. Ah ouais, ouais, ça a pris la conversion.
Voilà.
Non mais mettez-la à la cage, je vais m'acheter une Clio à la place. Non, évidemment.
Clio non,
heureusement. Moi, dans tant que brève, alors j'en ai deux petites. Dans les années 2000, je sais pas si tu te rappelles, c'est vrai qu'on en avait parlé dans Starter en début de saison. On avait demandé à un rappeur américain de présenter une émission de bagnole aux États-Unis. C'était ringard, mais ça a marché. Tu sais, c'était
Pimp My
Ride. Pimp My Ride.
Ouais, je connais. Ça. J'aime bien le rappeur. Il est sympa.
Ouais.
Non. Enfin, en tant que rappeur, oui. Mais en tant que personne, il avait l'air cool.
Ok. En tout cas, c'est vrai que ça avait marché. Ben, moins la version française, mais la version américaine avait marché. En 2022, on a demandé à un rappeur américain de créer un modèle unique de Mercedes. Et le résultat est pas terrible. C'est vraiment. Voilà. Alors, si je vous dis qu'elle s'appelle la Will.i.am.G.
Bah c'est Will.i.am du coup.
Ouais, c'est Will.i.am, hein, le rappeur qui a bossé avec AMG, qui est la division sportive de Mercedes. Et ils nous ont pondu un croisement entre une AMG GT, qui est plutôt belle à la base, hein, c'est une 4 portes, et un Mercedes Classe G, qui est un des meilleurs tout-terrain au monde, avec un look de tout-terrain, qui va bien sur un tout-terrain, moi en collant à l'avant d'un coupé sport. Voilà, et ben c'est pourtant ce qui s'est passé sur cette Will.i.am.
Ouais.
Donc on a une face avant toute carrée, hein. Et heureusement on a un arrière tout fluide, mais bon les deux vont pas forcément bien ensemble. Heureusement qu'ils l'ont pas embauché en tant qu'ingénieur chez Mercedes, parce que ça aurait fait un truc bizarre, le Black Eyed Peas là.
Ouais. Et parce que là du coup il se voit comme constructeur de mobile.
Ouais, quasiment, oui, comme designer,
cinéma,
on va dire. Ouais.
Il a fait quelques films.
Ouais.
Et bon, normalement il a fait de la musique, principalement il est connu pour ça.
Oui, d'ailleurs en parlant de cinéma, la voiture sera présentée au prochain festival de Cannes. Voilà, si vous voulez vous faire votre propre avis, vous avez juste
allez
à aller
au festival de Cannes, messieurs.
Et vous la verrez. Ouais. Autre bref, très bref, puisque on en parle pas mal en ce moment de l'arrivée des voitures chinoises sur le marché européen. MG sort un nouveau modèle et c'est un break. Ce qui en fait le premier break 100% électrique au monde, c'est le MG5. Alors, c'est pas hyper moderne en termes de look, c'est pas ultra quali à l'intérieur, il y a pas de plaisir à la conduite, mais par contre c'est spacieux, c'est silencieux, c'est bien équipé, il y a une autonomie qui est pas trop mauvaise, et puis on a des prix qui sont au top, hein, puisqu'on est entre 32 et 37 000 euros hors bonus écologique, ce qui est à peu près quand même 10 000 euros de moins qu'une Mégane high-tech qui serait ouais. l'équivalent, mais en moins spacieux, de ce qu'on pourrait avoir sur le marché actuellement. Donc moi je dis bravo MG, même si je n'achèterai pas chez vous. Je suis désolé de vous le dire,
si vous voulez un
concessionnaire
break,
MG, ouais. À partir du moment où vous faites une voiture électrique. Ouais, et puis j'ai pas d'enfant non plus, donc à la limite pour transporter des trucs, mais là je prends carrément
un utilitaire.
Un utilitaire, ouais, ouais. On est d'accord. Ce soir dans l'aventure starter, la carrière d'un homme qu'on aimerait tous copier. C'est un peu le Henry Ford français, et puis pour certains aspects, on va dire, en rêve d'aujourd'hui, ça serait le Elon Musk français. Monsieur André Citroën, s'il vous plaît, qui est né en 1878, donc ça fait un moment, en plein air industriel donc, d'un père qui est hollandais et d'une mère qui est polonaise, et qui sont venus s'installer à Paris quelques années avant.
Oui, et d'ailleurs, en parlant de ça, Son grand-père, c'est grâce à lui qu'il s'appelle Citroën, entre guillemets.
Ouais.
C'est Citroën, plutôt. Comment dire ? C'est dérivé, en fait, Citroën, du néerlandais. Parce que son grand-père était producteur de citron. Citron,
ah.
Citroën.
Ah. Hey.
Est-ce que t'as la petite ref ? Et du coup, oui, il est parti en Nouvelle-Zélande, je sais plus pourquoi, pour commerce, sans doute. Et il aimait bien comment on disait citron en néerlandais. C'était Citroën.
D'accord.
Et du coup, il s'est dit, tiens, je vais prendre ça, je vais mettre des trémas parce que c'est français, il faut que ça soit compliqué.
Je crois que c'est André Citroën qui a mis les trémas. C'était pas son arrière-grand-père.
Ah,
hein.
Peut-être.
C'est après que justement il s'est dit, ouais, non, tréma ça fera mieux. Et puis on dira Citroën.
C'est vrai, que Citroën. C'est pas beau, Citroën.
Oh, ça marche bien, Citroën aussi.
Ouais, voilà. Tout ce que je sais, c'est que.
C'est le Citroën Xan.
Il aime pas les citrons, Citroën.
Ouais, mais t'es vendeur de citron, ça c'est, ouais. Ça, c'est drôle ça.
Son grand-père. Ouais.
Et donc André, le petit dernier cinquième de la famille, né. Alors il a pas eu de chance de connaître beaucoup son papa parce qu'il est dépressif et il a sauté du haut du balcon quand André avait 6 ans. Donc ouais, malheureusement pour lui. Ce qui va pas trop le perturber en tous les cas dans son cursus scolaire parce que sa maman elle s'occupe de beaucoup de choses.
Oui.
Et il est à fond sur l'école. Hein. C'est le petit intello surdoué en maths avec
il va pas être ingénieur en polytech ou un truc du genre.
Alors si, après.
Ouais, bien évidemment.
Alors ce qui est marrant c'est qu'il a ce côté rêveur. Est-ce qu'il kiffe Jules Verne ? Donc à 9 ans, c'est pas banal.
C'est vrai que c'est le petit gosse qui lit des livres dans le coin que tu lances des cailloux.
Exactement. Mais il est aussi, il aime bien le concret. Hein. Donc il va continuer son lycée à Paris, même lycée que Louis Renault. On en avait parlé quand on avait fait l'émission sur Louis Renault. Et puis en 1889, comme une partie des Parisiens, parce que bon, c'est vrai que ça n'a pas fait l'unanimité, mais il est subjugué par la construction de la tour Eiffel qui est construite à ce moment-là pour l'exposition universelle. Voilà, bon, après, ils ne savaient pas s'ils allaient la détruire, s'ils allaient la conserver. L'histoire fera le reste. Et ça lui donne envie d'être ingénieur. Mmh. Et c'est pour ça qu'il va faire Polytechnique à Paris.
C'est ça.
Et juste avant la fin de ses études, il va aller voir la famille qui est restée en Pologne, donc c'est la famille du côté de la maman. Et là, il fait la connaissance du beau-frère qui, lui, a une entreprise qui fabrique des engrenages. Alors, des engrenages différents, parce que vous voyez bien les engrenages normaux, là, les petits crantés. Là, ils ont une forme de V.
C'est pointu ?
C'est pointu, ça s'emboîte en V. Alors, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus résistant, notamment à grande puissance, qu'un engrenage classique. Ça fait moins de bruit, aussi. L'inconvénient, c'est que pour que ça marche, il faut que ça soit fait de manière super précise. Ce qui n'est pas forcément le cas des Russes à l'époque. Donc il va pas avoir du mal à racheter le brevet de ça parce que en Russie, bof. Enfin, tu vois, en Pologne.
Le brevet de son beau-frère.
C'est pas son beau-frère. En fait, son beau-frère utilise, c'est des communistes russes qui ont le brevet.
Ah, oui,
mais il va racheter ce brevet sans trop de mal. Il va le ramener à la maison et il va vouloir peaufiner ça en France. Sauf que il est à l'âge d'aller à l'armée, de faire son service militaire.
Allez, hop.
Donc ça va un petit peu le freiner dans ses ardeurs. Il va faire 2 ans. Il doit gagner de la thune aussi en sortant de tout ça.
Aïe.
Donc il va devoir trouver un travail. Il met ça un petit peu de côté, même s'il a toujours cette idée. Et puis il a racheté le brevet, donc il va en faire quelque chose par la suite. D'abord, il se fait embaucher par une petite société de voitures qui va mal, qui s'appelle Morse. Rien à voir avec le clic, un truc comme ça là. Il va largement redresser la société puisqu'il va arriver à multiplier la production par 5 en seulement 3 ans.
C'est beau palmarès. Pas mal, ouais.
Bon, je dis bravo. Hein. Et c'est aussi ce qu'a dû se dire le patron parce qu'il l'a nommé directeur général de la boîte. Donc, ce que, à mon avis, le gars était pas trop mauvais. Ce qui va lui permettre d'aller voir ce qui se fait ailleurs et notamment en Amérique, chez Ford. Le constructeur qui a créé l'industrie automobile avec son fameux Fordisme dont on a déjà parlé, qui reprend la méthode du taylorisme, le travail à la chaîne, tout ça. Chaque fois, il y a une tâche pour chaque activité, ça déroule sur une chaîne et à la fin...
Le même gars
hop,
sur le même écrou tout le temps.
Exactement. Et à la fin, on n'a pas des chocs à pic, mais on a une voiture. Voilà, c'est
mieux.
C'est l'idée. Et quand il revient de chez Henry en 1912, il va appliquer direct cette méthode chez Morse. Ce qui ne va pas trop plaire aux employés parce que...
T'es une machine, t'es plus...
Exactement. Donc ils vont se mettre en grève, d'ailleurs comme ils avaient fait chez Renault, sauf que André, il est bon gars, il a surtout compris que les employés sont mal au travail, c'est-à-dire qu'ils vont moins bosser.
Ouais.
Tu vois, il s'en fout que ça soit du... un industriel. Mais il se dit, bon, si je lui améliore ses conditions de travail, il va mieux bosser, en gros c'est ça. Donc... au contraire de Louis Renault qui avait sanctionné les employés, là il va leur mettre des meilleures conditions de travail. Il va par exemple, c'est innovant ça dans l'industrie, il va mettre dans l'usine une crèche, une infirmerie, mais aussi une asso d'orchestre, des séances de gym, enfin tout ça, ça va se constituer.
Parce qu'on dit pas, mais il était très mélomane aussi. Il allait souvent à l'opéra, il emmenait sa famille. il faisait des concerts privés pour sa famille.
Ouais, et ça, il l'a obtenu de son frère qui était musicien. Et du coup.
Ah oui, il doit avoir le goût de musique pour ça.
Ouais, ouais, la fibre musicale dans la famille, c'est ça.
Un musicien raté. Ouais, il côtoyait le monde aisé, hein, quand même. Mais
ouais,
bon, voilà.
On est d'accord. Et ça, ça les a bien remis au travail, hein, les employés. Donc, joli coup. En parallèle, il va monter sa propre société avec deux anciens potes de lycée, Paul Instin et André Bois, pour fabriquer les fameux engrenages en V dont il a la licence.
Ouais, il a eu du pif, il a eu de l'instinct.
Il a eu de l'instinct. Et alors, c'est marrant parce que les engrenages en V, tu les mets vers le haut, d'accord ? T'en mets deux, ok ? Ça ouais. fait un double chevron. Et c'est l'emblème de Citroën aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est comme ça que vous regardez sur le capot de votre voiture, et ben vous avez les engrenages Citroën.
C'est pour ça que tu nous parles d'engrenage depuis tout à l'heure.
Mais exactement, mais parce que aussi, c'est, il a commencé par ça.
Ouais.
Et elle va bien marcher, sa petite boîte, parce que même s'il y a pratiquement que lui qui mène la barque, hein, les autres, ils ont un peu abandonné l'idée, lui, il va déposer des brevets, il va se mettre à fabriquer des transmissions, et notamment des transmissions de boîtes de vitesse. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a par exemple Skoda en URSS
Lol.
Qui va vouloir exploiter le brevet de chez Citroën alors que lui-même avait racheté le brevet à des Russes. Tu
Excellent.
Vois, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, mais c'est marrant. Bref, avec ses deux postes, lui, il devient riche, hein, mais il n'est pas trop du côté bourgeois parce qu'il ne vient pas de là et il ne va pas y rentrer non plus, donc il n'achète pas des châteaux ou des tableaux.
Il n'achète même pas sa maison. Sa maison lui appartient pas, il la loue.
Ouais. Par contre, il va traîner dans les bars, les casinos, hein, Teddy.
Ouais,
hein.
Il va développer un petit problème d'addiction qui ne va pas franchement le gêner plus que ça.
Mm-hmm.
Il va aller dans les casinos, hein, notamment à celui du Touquet, voilà.
Oui.
Celui de Beauville aussi, il va beaucoup traîner, beaucoup perdre son argent là-bas apparemment. Il va perdre et gagner des sommes colossales, hein, à chaque fois, mais bon, sans trop de problèmes, clairement, ça va pas le gêner. Lui, il perd beaucoup, c'est pas grave.
Bah parce qu'il a de la thune, quoi.
Voilà, oui. Il perd beaucoup, mais pour toi c'est ta vie, pour lui c'est... Ouais, bon.
Bien sûr.
Voilà, et comment dire... il va même... C'est marrant ça, parce que le fait d'avoir développé cette petite addiction, ça va même lui servir, parce qu'il va rencontrer sa femme. Sa femme qui s'appelle, je sais plus comment, Georgina Binger.
Ouais. Je me disais bien que c'était un nom de vieux, mais normal, c'est l'époque. Hein.
Ouais, Georgina. Ouais. Ouais. Pourtant, c'était une Italienne. Hein.
Ah oui.
Une juive italienne, je sais
Gina.
Pas.
Gina, ouais, c'est Georgina.
Georgina Binger, je sais pas. Mais bon, il la rencontre en 1913, mm-hmm. et boum, en mai 1914, mariage. Parce que il est...
Pas le temps.
Oui, mais en même temps, c'était la guerre, donc il s'est peut-être pressé
oui.
aussi.
Alors non, c'était juste avant la guerre.
Oui. Oui, ouais. Non, mais la guerre s'annonçait quand même.
Oui, oui, on est d'accord.
Tu vois, c'est la guerre.
Oui, il y avait des prévisions.
Des signes, oui.
On est d'accord.
Donc bon, ils se marient et ils vont faire des enfants en 1915, 17, 19.
Ah, pendant la guerre, hein. Okay.
Oui. Oh, bah, ouais,
ah, ouais, il y a que ça à faire.
Non, mais c'est qu'il met toujours 2 ans entre chaque, ouais. sauf la dernière, Solène.
Il n'y a pas le temps, plus le temps.
23, non, c'est accident, lui.
Ok.
Non, parce que c'est marrant, sa première fille, qui s'appelle Jacqueline, elle deviendra directrice d'une maison de haute couture et tout, elle va mettre chevalier de la Légion d'honneur,
ouais.
je ne sais pas pourquoi, mais bon,
c'est bien.
Tu fais de la haute couture, t'es chevalier, c'est cool.
Bravo.
Voilà. Tu as son fils Bernard, son deuxième ingénieur polytech, il suit les traces de papa.
Ok.
Nous avons le troisième Maxime, qui n'a rien fait d'extravagant apparemment, à part se marier avec quelqu'un de connu, je sais plus qui c'est, mais bon, voilà. C'est nul.
Ça suffit pour devenir riche.
Et Solange, j'adore les descriptions qu'il y a d'elle, y a rien. Solange ne sert à rien. Bon. Donc oui, il va faire sa petite famille grâce à son addiction.
Oui, quelque part, oui. Mais ne le faites pas.
Non, oui, ça réussit pas à tout le monde.
Clairement. Ah, ouais.
Et il faisait d'autres choses aussi, un petit peu bizarre à cause de...
En soum-soum.
Ouais, avec ses addictions qu'il devrait pas faire et que vous devriez pas faire non plus. Il offrait des bagnoles très régulièrement.
Ah bah, c'est cool ça, c'est gentil.
Alors que tu sois riche ou le croupier, tu vois.
Ah oui.
Il offrait à n'importe qui, il disait, ah tiens, vas-y, allez, je te filme attraction, je ne sais pas, ouais. n'importe.
Eh, mais voilà, pour ça. Aussi, dans un but de communication, de bouche-oreille, etc.
Mais bien sûr,
il y avait de ça, oui.
Il y a de l'intérêt. Ouais. Mais bon, l'histoire veut que André Citroën soit quelqu'un d'assez généreux, au final.
Ouais.
Il n'était pas porté, justement, sur le monde de la luxure, il collectionnait pas, il s'en foutait un peu de son argent, vraiment.
Le monde du luxe. Hein.
Il était vraiment pas comptable.
Oui.
Donc bon, il lâchait son fric comme ça, et il investissait, et il communiquait beaucoup, 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 beaucoup.
Oui, exactement. Alors, la première guerre mondiale, t'en arrives parce que tu me dis, il s'est marié et
bah oui.
arrive la première guerre mondiale. Son frère est mort pendant la première guerre mondiale, au tout début, hein, 14, et mort au combat. Et ce qui va lui mettre un petit peu la rage à André et l'envie de participer à l'effort de guerre. Il va proposer au gouvernement, en fait, de fabriquer dans les usines Citroën des obus. Énormément d'obus, puisqu'on arrivera à une production de 50 000 obus par jour. Avec la méthode Fordisme, ouais, ça dépote, ouais, grave. Et pour ça, il va construire entre-temps une nouvelle usine sur l'emplacement mythique de Citroën à Paris, c'est-à-dire le quai de Javel, où il y a maintenant le musée Citroën. Hein, c'est l'emplacement mythique de Citroën, même s'il y a eu d'autres usines après. Fin de la guerre, son entreprise va bien, Morse, pour qui il travaillait un peu moins, c'est pas grave, il va racheter.
Oui, il peut se le racheter.
Il rachète et justement, il se dit, bah allez, Citroën, on va la changer en entreprise automobile.
Ouais.
Parce qu'il connaît bien comment ça marche, hein, et puis il a les engrenages, il a tout ce qu'il faut. Donc il change en automobile dès 1919 avec la première voiture européenne produite à la méthode Ford. C'est la 10 HP qu'on peut avoir en version aussi de couleur jaune citron. Marrant,
c'est étonnant, ouais.
Le petit rappel. Il y a plein d'autres modèles, hein, évidemment, qui vont sortir par la suite avec pas mal d'innovations. Et surtout, très bien vendu, parce que toutes les trouvailles commerciales d'André, il en a eu énormément. Hein, parce
bien
que,
sûr.
En plus d'être un industriel hors pair, c'est un super commercial.
Bien sûr, il va saisir toutes les opportunités qu'il a pour faire parler de ses bagnoles. La première, 1919, une bagnole. 1919, premier coup de com' énorme. C'était le début des panneaux de signalisation. Dunlop, je sais pas comment...
Dunlop, ouais.
Dunlop.
C'est les pneus.
Et Michelin, ouais. Michelin, ils commençaient déjà à installer des panneaux de signalisation. Ça faisait, ouais, 9-10 ans qu'ils faisaient ça.
C'est vrai. Alors, autant Dunlop, je pense que ça a continué moins longtemps. Mais par contre, ouais, les plaques Michelin...
Mais bien sûr,
tu
Michelin,
en trouves encore. Enfin, je sais que par exemple à l'entrée de mon village, il y a une plaque Michelin encore.
Si on a des panneaux de signalisation, c'est grâce à eux.
Ouais.
Ça s'est importé grâce à eux. Je crois que ça vient de l'Angleterre, je crois.
Ok.
Si je me rappelle bien. Je fais semblant de me rappeler des trucs. Mais bref. En 1919, du coup, il se dit. Ah bah oui, il y a un créneau à prendre, des panneaux de signalisation. Mais oui, je veux en mettre aussi à mon effigie, comme ça on parlera de Citroën aussi.
Les panneaux Citroën.
Il fait des panneaux Citroën pour traverser les villes et municipalités, pour dire tiens, ici c'est telle ville, avec bien sûr son logo, ses
bien
couleurs, voilà, total quoi. Ça c'était en 1919. Mm-hmm. En 1922, donc soit 3 ans après, ils se disent les avions ça marche bien et tout, c'est cool. Il va attendre un événement, je ne sais plus lequel c'est, pour... Je sais même pas si c'est un événement.
C'est le 14 juillet.
Ah ouais.
Je sais pas.
Je sais pas. Ouais. Mais même, de toute façon, il a créé l'événement lui-même.
Ouais.
Il s'est dit, je vais prendre un avion et je vais écrire dans le ciel avec la fumée de l'avion, mon nom. Citroën.
Un peu mégalo quand même, hein, le mec. Hein.
Mais totalement mégalo.
Bon, après, c'est pour la marque, c'est pour sa marque auto, mais quand même.
Sur 5 km de long, tu vois, Citroën écrit.
Donc, t'es parisien, tu lèves les yeux et là, tu vois marqué Citroën avec la
première fois que quelqu'un fait une com dans le ciel X ou Y. Parce que je sais pas, avant, t'avais peut-être les dirigeables ou genre de trucs.
Pour marquer Citroën, c'est plus compliqué.
Oh, oui, non, mais tu écrivais sur le dirigeable.
Ah oui, bah oui.
Mais là, ouais, première fois que tu voyais un nuage en de Citroën, les gens, ça a marqué des esprits. Citroën n'a pas attendu bien longtemps avant de recommencer son coup de com. Un an plus tard, en 1923, il se lance dans les miniatures, les jouets. Parce qu'il se dit que dès le plus jeune âge, ouais, faut les endoctriner. C'est l'endoctrinement. Bref, il crée des petites voitures pour jouer, avec des châssis démontables et tout. Donc bien, objet tech sympa.
Ouais,
rien à voir avec le plastique.
L'idée, effectivement, étant d'alpaguer les plus petits et que les trois premiers mots d'un enfant soient maman, papa et Citroën. C'est génial.
Il y en a d'autres qui ont essayé de faire leur endoctrinement comme ça. c'est mal
après
bon.
Maintenant ça se passerait plutôt mal, mais à l'époque c'est génial parce qu'il était en train d'inventer de la communication moderne, hein.
Non mais c'est vrai, et puis là c'était pas totalement
les intentions étaient les mêmes.
Oui,
qu'aujourd'hui, hein.
Il a attendu 2 ans après. Il a fait d'autres choses entre temps évidemment, mais en 25, gros coup de com aussi. Il s'est dit, mais la tour Eiffel, ça brille ce truc. Il y a des ampoules, il y a 250 000 ampoules que je peux utiliser. Pourquoi ils écriraient pas Citroën dessus, en gros, toutes les nuits, pendant 8 ans? Et ben c'est ce qu'il va faire.
C'est lui qui les a fait mettre, hein, ces ampoules, parce qu'il y avait l'éclairage classique de la tour Eiffel, mais...
Il a rajouté des ampoules.
Il a rajouté 250 000 ampoules pour écrire son nom sur la tour Eiffel. Et ce qui est génial, c'est... Alors, forcément, Jean-Louis Renault, on en avait parlé, hein, mais il était deg. Il passe à côté de la tour Eiffel. Lui, il avait fait, je crois, une voiture électrique pour exposer à...
C'est ça, au salon de... Ah, je sais plus. Le plus gros salon
d'innovation, voilà. Et il sort de ce salon-là, et là, il voit écrit Citroën en géant sur la tour Eiffel. Et pendant 8 ans, il a eu le seum. En passant tous les soirs devant la tour Eiffel, il avait écrit Citroën, quoi. Génial.
8 ans. Malgré le fait qu'en 26, soit un an après, ça a été multiplié par 6 le prix de... Pour faire louer,
l'affichage,
en fait.
Ouais.
Il s'en battait les couilles,
attends,
il l'a fait
gros
quand même.
En même temps, quoi.
Mais
c'est tellement génial. Et alors, tu parlais là, en 1926, mais juste avant 1923, on avait parlé des croisières Citroën.
oui, évidemment.
Qui était aussi un énorme coup de com, où il avait organisé 4 croisières, soi-disant pour de la découverte, recherche scientifique, etc. Il y avait ce côté-là hein, aussi. Mais
un
il y avait
peu.
Surtout comment je vends ma marque à l'étranger et comment les Citroën sont l'image d'une voiture qui passe partout et qui est innovante, etc., etc. C'était les fameuses auto-chenilles Citroën.
Je ne sais plus en quelle année il avait racheté la société Kegress, qui est une société de production d'auto-chenilles. Du coup, oui, il a fait monter Citroën Kegress. Hop, allez, hop, on envoie ça, on se fait des croisières, on se fait de la com, c'est parti mon kiki. C'est pas le seul coup de com qu'il va faire comme ça en envoyant des bagnoles. Il va se dire, bah tiens, on va envoyer des convois, tu sais, comme les festivals, là, les carnavals,
oui.
Tu vois, avec des chars et tout ça. Bah, il se dit, bah tiens, on va envoyer des Citroën dans les villes où il n'y a pas de concessionnaire ou quoi que ce soit. Bah
ouais.
Tiens, allez faire une petite caravane, faites ça. Donc, bouf, il envoie ses petites Citroën dans les plus petits villages, villes et tout
pour
ça.
Pour qu'on découvre les Citroën, les modèles Citroën.
Tu découvres que Citroën. Quoique, non. Parce que tu pouvais être aussi distribué d'une autre manière, et là Citroën a aussi agi avec un journal. Je sais pas comment il s'appelle, mais surtout le journal Citroën.
Certainement.
Ne cherchons pas plus loin.
Oui.
Il lance son journal, donc avec dedans les innovations technologiques,
ah,
les nouvelles dernières
etc.
sorties de Citroën, tout ça. Bon.
C'est pareil, imprimé en je sais plus combien d'exemplaires, mais c'était assez énorme. Hein.
Mais tout le monde sur la radio, j'imagine qu'il a peut-être fait de la com aussi, comme tous. Hein,
bah,
voilà.
Non, bah, c'est trop haine.
Voilà. Mais le magazine, ouais, c'est sans doute l'un des premiers à l'avoir fait.
Ouais.
Tout le monde a dû le copier juste après, je pense. Hein. Renault a dû sortir son magazine après. Mais bon, ouais, la com.
Alors la radio, je sais pas, parce que c'était pas encore vraiment l'époque où on avait des radios structurées. Hein, mais en tout cas, les journaux, je sais qu'il louait aussi, en plus de son propre journal, il louait régulièrement des dernières pages de journaux entières pour faire la promo de ses voitures. Donc très très fort en termes de communication, et ça va faire qu'augmenter les cadences de vente qu'il va distribuer dans un réseau de concessionnaires donc qu'il a développé d'abord en France, donc dans les grandes villes, parce que dans les petites villes on a ces fameuses caravanes,
ouais.
Et puis à partir de la deuxième moitié des années 30, carrément sur le marché mondial, et c'est comme ça qu'il va arriver à être deuxième constructeur mondial dans la fin des années 20, et premier constructeur européen, genre c'est le sommet de sa carrière le gars,
ouais.
Il est au top. Ensuite arrivent les années 30, alors c'est un peu dur pour tout le monde, hein, fin des années 20, début des années 30, parce qu'on a la fameuse crise financière de 1928, donc c'est serrage de ceinture pour tout le monde, sauf pour lui, parce que lui, il continue de jouer au casino, machin, enfin,
sans problème.
Ah, tranquille, il a de la thune, mais bon, évidemment, les caisses, ça diminue un petit peu. En 1933, il va se lancer dans une OP qui va lui coûter un fric monstrueux. Il veut produire une nouvelle voiture, il veut produire la traction avant, donc il va faire démolir toute l'usine du Kit Javel, entièrement, pour la reconstruire en plus grosse, au même endroit, et ça c'est une prouesse, sans que la chaîne de montage s'interrompe.
Ouais.
Même pas une journée. Hein. Genre, voilà. Comme ça, il va pouvoir produire en fait ces nouvelles voitures vraiment du premier boulon jusqu'au dernier, sans interruption, sur une même chaîne de montage sur le Quai de Javel.
D'ailleurs, petite fun fact sur ce fameux Quai de Javel. Mm-hmm.
Qui n'a rien à voir avec l'eau de Javel. Hein.
Non, mais ça a dû être à cause du gars qui s'appelle Javel que ça porte ce nom. Là,
certainement,
j'imagine.
Oui.
Le gars qui a dû inventer l'eau de Javel, j'imagine.
Oui,
sinon,
oui,
c'est,
oui.
Voilà.
Pas le qui. Oui.
Citroën avait fait un repas, une réception sur le quai de Javel, en l'honneur d'un aviateur, Lindbergh.
Ah oui, qui avait traversé l'Atlantique des États-Unis jusqu'en France.
Oui, ouais. Il avait fait une traversée, et en fait, quand il était arrivé en France, bah, il avait eu du mal à se repérer. Et oh, bah, qu'est-ce que je vois en bas? Il commence à faire nuit. Oh, une tour Eiffel avec écrit Citroën dessus.
C'est la France.
Bon, bah là, je sais que c'est voilà.
Est-ce que c'est pas un peu romancé cette histoire quand même?
C'est un peu.
Certainement. Hein.
Je sais pas comment il a fait pour se perdre. Mais bon, bah si, en même temps, il voyait des lumières. Il savait que c'était Citroën écrit en gros.
Oui, mais il y aurait eu que la tour Eiffel, peut-être qu'il l'aurait vu aussi.
Bah peut-être pas, on va savoir. Parce que sans lumière, peut-être
bon,
qu'il
bah c'est
pas,
grâce
bon,
à André alors.
Je sais pas, mais bon, en tout cas, lui, il a sauté sur l'occasion quand il a su que c'était grâce à lui. Oh, tiens, viens, on va faire une petite fête. Quel Javel.
Ah ouais. Donc, il a visité les usines et tout y quanti. Et du coup, gros coup de com'
encore.
Aussi pour les Américains.
Voilà.
Non, mais il est très très fort hein, là-dessus.
Ouais. Oui.
Bon, sauf que sur l'attraction, il voyait un joli coup pour sauver l'entreprise Citroën qui commençait à être en difficulté. Sauf que bah, ça n'a pas été le cas parce que ça a coûté tellement cher. Alors, non pas à développer parce que ça s'est développé très rapidement l'attraction. Sauf qu'il y a eu des fautes de jeunesse plus la crise, ce qui a fait que les ventes ont eu du mal à décoller. Et il va être obligé de demander à son plus gros fournisseur qui est Michelin s'il veut bien rentrer au capital de Citroën.
Et oui.
C'est ce qui se passe. Sauf que en 34, dépôt de bilan. Malheureusement. Donc Michelin doit racheter toutes les parts à Citroën et bah, il vire André de sa propre usine, de sa propre marque. Donc c'est un petit peu dommage. Et ça va précipiter. Alors bon, j'ai pas les conditions exactes, mais il avait un cancer de l'estomac et
ça a pas dû l'arranger.
Ça l'a pas arrangé. Genre 6 mois après, juillet 35, RIP André Citroën quoi. Ouais. Voilà.
Donc ce qui est con.
Bah, ce qui est con, oui. Alors Michelin rachète hein, donc, et prend la suite. Et pour le coup, je trouve que c'est bien fait parce que souvent, vous savez, hein, quand il y a un rachat, après on
c'est
dénature un peu la marque.
Voilà.
Là, c'est pas le cas. Ils vont conserver l'esprit et la vision d'André Citroën, qui était plutôt une bonne vision pour le coup, enfin qui lui avait porté chance jusqu'à maintenant. Donc ils vont par exemple se mettre à développer l'un de ses projets, qui est la TPV, la toute petite voiture, qui va devenir après-guerre la deux chevaux. Ils vont continuer d'innover aussi après avec la DS qui sortira en 55 et puis toutes les excentricités Citroën qui font que Citroën est une marque unique, enfin, en tous les cas avant le rachat de Peugeot, comme André était un homme unique, innovant, visionnaire, audacieux, humaniste aussi, hein, parce qu'on l'a vu avec ses usines, et qui reste comme un pilier de l'industrie française.
Starter, le garage.
Alors, dans le garage de Starter cette semaine, une traction avant.
Une traction. Mais attends, toutes les voitures sont des tractions, donc laquelle traction ?
Alors, là, je veux parler de la traction. En deux mots. Hein.
La traction ?
La traction.
La fête foraine
Non, en deux mots, on est d'accord. Celle qui, à défaut d'être la toute première traction avant, a été la première voiture de grande série en traction avant. Et évidemment, c'est une Citroën. Alors, petit rappel historique pour commencer. On est en 1933, période charnière de l'automobile, puisqu'on sort d'une crise mondiale. Citroën est leader de l'automobile en Europe, mais la concurrence, elle pousse. Hein. Il faut sortir le grand jeu, et très vite, et cela avec peu de moyens, puisque c'est la crise. Donc, chez Citroën, ils embauchent un certain André Lefebvre, qui est un ancien ingénieur Renault, qui va avoir la lourde tâche de développer une voiture révolutionnaire en 18 mois.
Sans problème.
Sans problème. Eh bien ouais, parce qu'il le fait en 15 mois. Il est fort cet André. Ouais. Alors déjà, il élimine l'idée de bosser sur une voiture du peuple, ça sera pour plus tard, ça sera la deux chevaux. Ensuite, il se concentre sur l'innovation majeure, qui est donc la fameuse traction avant, ce qui donne quand même pas mal de choses de fil à retordre, hein, puisqu'on n'a jamais fait ça. Le fait que ça soit les roues qui entraînent aussi la direction, etc., c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Mais il le fait bien. Et puis il y a d'autres innovations, par exemple la direction qui est à crémaillère, parce que c'est indispensable hein, sur une traction avant. C'est une carrosserie monocoque, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de châssis séparé de la carrosserie.
C'est solide.
C'est censé être solide, je vais revenir dessus. Des freins hydrauliques pour moins d'efforts à la pédale, une boîte de vitesse synchronisée, parce qu'avant quand on passait les vitesses un peu trop rapidement, crac, alors que là ça passe tout seul comme dans du beurre. Et quand elle est présentée au Mondial de l'Auto à Paris en 1934, c'est THE attraction. Là, pour le coup, en un mot. Elle ringardise toutes les autres voitures par son avance technologique. Je pense qu'il n'y avait aucune autre voiture qui tenait d'ailleurs aussi bien la route à l'époque et qui était aussi satisfaisante à conduire. Puis le look, hein, aussi, il faut dire que c'est bien joué.
C'est un look qui s'oublie pas. Oui,
c'est sympa. C'était dessiné par un certain Flaminio Bertoni qui va aussi dessiner la 2 chevaux, la Mi 6 et la DS, donc c'est pas un petit.
C'est vrai qu'on retrouve la patte de la 2 chevaux dans la traction, on retrouve un peu dans la 2 chevaux.
Alors, tu retrouves certainement les ailes. Ouais. Oui, alors les ailes, c'était valable pour toutes les voitures d'avant-guerre. Ça n'était plus valable pour les voitures d'après-guerre, sauf la 2 chevaux. Mais on rappelle que la deux choix a été designé avant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Après, ça se fait plus, mais on retrouve certains aspects quand même, effectivement. Le problème, c'est qu'après le salon, il y a eu des clients. Et les premiers clients, ils se sont aperçus qu'elle n'était pas tout à fait au point, la Citroën traction avant. Par exemple, les cadrans à l'avant ont tendance à se casser. Ce qui fait que les roues partent toutes seules.
Ah ouais.
Un léger petit problème de conception. Oui. La structure monocoque, tu disais qu'elle était solide. Alors effectivement, elle est censée être solide, sauf qu'elle n'est pas autant que ça. Ce qui fait que des fois, au niveau du pavillon, ça a tendance à se plier. Tu vois, la voiture, elle a tendance à se plier.
Ah ouais, d'accord.
Ouais. Donc, il y a eu des améliorations. Il y a eu aussi sur la partie mécanique parce qu'elle était tellement innovante, si tu veux, que dans le réseau Citroën, bah, ils buguent les mécanos, quoi. Ils se disent, ouais, non, on sait pas réparer ça, tu vois. Et d'ailleurs, je fais un petit hommage hein, à tous les mécanos Citroën de l'époque parce qu'ils ont souffert. Hein. La traction avant, la DS, la SM, la CX, tout ça. Ils se sont dit, oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'ils nous sortent chez Citroën ?
Ils s'adaptaient à chaque nouveauté et ça devait être dur.
Mais oui, et notamment au fameux système hydropneumatique Citroën qui font que les suspensions montent et descendent, qui a été lancé d'ailleurs, parce qu'on pense souvent que c'est sur la DS que ça a été lancé, mais non, ça a été lancé sur les derniers exemplaires de la traction.
Ouais,
en 54. Vous en parler, Teddy ?
Oui, c'est l'attraction 15/6, donc 15/6 on va dire.
Ouais.
Donc oui, sorti en 54. Cette suspension a tellement bien marché, hein, la suspension hydropneumatique, qu'on l'a continuée jusqu'en 2017.
Ah ouais.
Une carrière.
C'est d'ailleurs tellement dommage qu'il l'ait abandonnée, cette suspension hydropneumatique, parce que personne d'autre ne faisait ça. Alors ça dépend pourquoi, parce que moi j'étais malade, pas mal avec ces suspensions. Mais dans le principe, c'est assez révolutionnaire.
Évidemment. Pour ceux qui avaient mal de dos, par exemple, c'est un bonheur. Ça a remplacé la suspension oléopneumatique.
Ouais, c'est un.
Avec du lait. Non, j'ai. Hydro-lait. Mais oui, c'est.
Mais ça marche comment, alors, grosso modo, hein, sur le principe?
Alors, l'hydropneumatique, en fait, ça marche avec. Dans une sphère, il y a deux contenants.
D'accord.
Un contient de l'air et l'autre contient un liquide hydropneumatique.
Ouais. Donc, une sphère pour chaque roue, en fait, pour chaque.
Oui, pour chaque suspension, ouais, évidemment. Okay. Et dans cette sphère, t'as les deux contenants. Et en fait, celui de l'air flotte sur le liquide hydropneumatique.
Mm-hmm.
Et c'est ça qui fait ton système d'amortissement, en fait.
Ouais.
Vu qu'il flotte, en fait, ta structure est posée sur celui du haut,
ouais,
sur l'air, et du coup, ça flotte. Ouais, ouais, vous voyez, la caméra.
Et c'est pour ça que t'as cette impression de tapis volant, en fait,
oui,
quand tu conduis une
Citroën. C'est l'impression de flottage, parce qu'en fait, tu flottes vraiment dans un liquide, en fait. C'est ça qui est marrant.
Et c'est ça qui te donne la gerbe aussi.
Oui, oui, pareil, parce que si tu le fais trop grand et tout ça, mais bon, et puis tu pouvais le régler après, plus tard, ils ont rajouté plein d'options à ça. Hein.
Bah, tu pouvais le régler en hauteur, et bon, c'est ça qui avait sauvé le général de Gaulle aussi avec sa fameuse DS où un pneu était crevé, mais elle a continué à rouler sur trois roues. Tu pouvais d'ailleurs changer la roue sans avoir besoin d'un cric parce que ta voiture elle t'élevait toute seule.
Voilà.
Et tu pouvais la régler en hauteur suivant où tu passais. Alors à l'arrêt, elle avait tendance à se baisser pour que tu montes mieux dans la voiture, et par contre, tu pouvais la régler en position haute pour passer dans un chemin, par exemple, pour avoir plus de garde-sol et en faire un SUV.
Mais du coup, tu pouvais vraiment avoir le mal de mer dans une bagnole.
Ah bah, clairement, ouais.
Le liquide s'appelait le LHS à l'époque.
Ouais.
Maintenant, bien sûr, ils l'ont innové et tout ça. Et maintenant, ils l'ont arrêté vu que ça s'est arrêté en 2017.
Alors, fun fact, sur les premiers liquides qu'ils avaient fait, qui étaient de couleur rouge au départ, je sais pas ce qu'ils avaient exactement dedans, mais ils avaient tendance à se corroder. À corroder la boîte en métal. Hyper rapidement, ce qui fait qu'on se retrouvait avec des fuites sur le liquide en 6 mois après la sortie de la voiture. Voilà. Donc après, ils ont corrigé tout ça. Maintenant, après, ça a été du liquide vert. Alors, je sais pas encore une fois la formule chimique, mais ça ne corrodait plus le contenant. Donc c'est un peu mieux, quoi.
Quand tu changes de couleur, ça corrode plus.
Oui, c'est ça. Ils se sont dit, allez, on met du vert. C'est vert, Indesta. Allez, hop, c'est bon. Oui, en tous les cas, malgré ce démarrage difficile de l'attraction, elle va être sans cesse améliorée par les ingénieurs qui en ont fait simplement la meilleure voiture de la production pendant 23 ans et elle va être déclinée. Alors, elle est disponible en version 4 portes sans malle, avec malle, rallongée, en version coupée, en version cabriolet, en version présidentielle avec le fameux René Coty, président de la France, qui avait roulé en traction présidentielle. Elle fait de 4,40 m à 4,96 m, hein, donc
c'est assez long quand même.
C'est assez long, hein, c'est une grande voiture la traction, surtout pour l'époque. Et c'est la voiture du haut peuple, hein, les hommes d'affaires roulent en traction, les chefs d'entreprise, tout le gratin, quoi, finalement. Les moteurs vont évoluer évidemment parce qu'on commence avec un 32 chevaux au début seulement, et puis ça va évoluer jusqu'à 77 chevaux, ce qui est pas mal du tout pour l'époque, ce qui va la faire dépasser les 130 km/h.
Elle est rapide comme
voiture. Elle est rapide, sachant qu'il n'y avait pas d'autoroute, hein, évidemment, à l'époque, donc 130 km/h, vous pulvérisez, c'est 135 je crois la vitesse maxi.
Tu pulvérises la plupart de tes rivaux en bagnole, tellement que ça a inspiré pas que les présidents, pas que les gens de la haute, ça va inspirer aussi un certain Pierrot Le Fou.
Le Fou?
Oui.
Parce que.
Est-ce que t'en as entendu parler?
Non, mais vas-y, j'ai hâte que tu me racontes l'histoire.
D'accord. Alors, oui, c'est un malfrat des années. Je sais plus quel. Ouais, enfin, il a eu 30 ans, il est mort. Il est né en 1916, hein. Enfin, bref. Il a fait des trucs et tout. Petit voleur de bas étage, jusqu'à un moment où il va décider de créer son gang. Le gang des tractions avant.
Ah bah.
Devine ce qu'il avait comme bagnole.
Une traction avant. Ouais.
Ils avaient plusieurs tractions avant et ils commettaient plein de larcins, plein de crimes. Voilà. Il a tué 11 personnes, ce gars-là.
Ah, quand même, ouais.
11 assassinats. Il a
ça fait pas de la bonne pub, ça.
Bah,
oui et non.
Oui et non. Ouais. Mais bon, il a cambriolé je ne sais combien de bijouteries et tout ça. Et jamais il se faisait choper parce qu'il était en traction avant.
Ouais, j'avoue, ça a quand même un coup. La voiture est performante, quoi.
Et oui. Donc le gars. Qui pèse dans le game, il s'appelait Pierre Loutrel. Effectivement, ça fait beaucoup moins mal.
C'est Pierre.
Grâce à ses tractions avant, il va hériter du nom, enfin non pas du nom, comment dire, du titre ennemi public. en France. C'est le tout premier à avoir eu ce titre.
Ennemi public numéro 1.
Exactement. Mmh. Avant, il n'y en avait pas d'ennemi public en France. C'est lui qui a eu le premier.
Ok.
Grâce à la force de ses tractions avant, parce que sinon, ça aurait été un.
Il se serait fait rattraper.
Bah oui. Ouais. Et il se serait tiré une balle apparemment dans le ventre à bord d'une traction avant.
Pourquoi ?
Il n'aurait pas fait exprès. Lors d'un accident, lors d'un casse d'une bijouterie, effectivement, il se serait peut-être tiré dedans. Peut-être que c'est un règlement de compte. Peut-être que c'est pendant justement les échanges de coups de feu avec les flics.
Ouais.
Il est mort à l'hôpital sous un faux nom parce que bien sûr ses potes l'ont emmené à l'hôpital en traction.
Ouais.
C'était son dernier voyage en traction au final. Hein, et bon, il serait mort suite à ses blessures.
Les blessures. Ouais. Voilà. Ok. Là, tu parles d'un mec donc dans le côté malfrat, etc. Mais si globalement,
il est légendaire ce type-là. Il est tellement légendaire qu'ils vont en faire un film. Hein.
Ouais, bah voilà. Alors les films, la pop culture, parce que j'ai l'impression qu'on retrouve souvent des tractions avant dans les films. Je me trompe?
Toi, t'aimes bien Bourville, je crois.
Bah, traction avant.
Voilà, alors je sais pas s'il la casse effectivement dans ce film-là. En 61, sort le film Tracassin.
Tracassin comme traction? Non, rien à voir.
Va savoir si ça se trouve, va savoir. Après, il y a le film Paris brûle-t-il en 66, où tu vois des tractions.
Ouais.
La Grande Frousse en 64, tu vois une traction. Mmh. La 7ème Compagnie, quelle année, mais tu vois plein de tractions. Le 1 ou même le 2, parce qu'il y a.
Oui, ben, je me rappelle quand avec la traction, quand ils rentrent chez les Allemands, ils font tour et tac, et puis ils repartent parce qu'il doit y avoir la garde allemande de présente. Ouais.
Papy fait de la résistance, donc oui, encore un film. La traction. Ah oui, en même temps, en temps de guerre, une voiture qui roule, c'est cool. Les valseuses aussi.
Ah oui.
Et non, on parle pas des deux paires de couilles. Hein. Quoique, je sais pas si ça fait référence à ça, non?
Non, je trouve. Enfin, oui, c'est un truc de mec, quoi. Les
ouais, c'est ouais. Vraiment pas des valseuses, d'accord, du coup. Sinon, plus récent, si vous voulez, Les Choristes.
Ah oui.
Avec Gérard Jugnot. Et bah oui, il a quoi?
Une traction.
On vous épargne la suite. Et encore plus récemment, en 2016, le film Allié.
Pas vu.
Moi non plus, mais apparemment il y a des tractions.
Ouais, non, mais c'est vrai que oui, ça fait. L'attraction, c'est voiture de gangster, voiture de gentil.
Peux la voir en salle de sport aussi, gars qui font des tractions.
Ah, ça, c'était la vanne de Teddy.
Voilà, c'est fini.
Bref, elle va être produite cette Citroën Traction jusqu'en 1957. Elle se fera remplacer par la DS, hein, qui est présente en 55. Ça, c'est une autre histoire. En tous les cas, voiture iconique. La dernière voiture, d'ailleurs, qu'André Citroën ait vue de son vivant. Ouais. Ça faut combien aujourd'hui si on veut s'acheter une traction en 2022, Teddy?
Alors, si tu veux t'acheter une traction, alors il faut mettre deux catégories de traction principalement. Celles qui n'ont pas les suspensions hydro-pneumatiques, ouais. Et celles qui ont les hydro...
Lesquelles valent les plus chères? Est-ce que ce sont les premières ou les dernières avec la hydro-pneumatique?
La dernière, avec la version hydro-pneumatique,
okay.
Qui vaut en moyenne dans les 40 000. C'est cher.
Ah ouais, bah c'est pas donné, ouais, effectivement.
C'est pas donné, mais
sachant
bon,
que c'est pas une voiture que vous pouvez utiliser au quotidien non plus. Hein.
C'est vrai. Malgré par contre, celles d'avant, elles sont beaucoup moins chères quand même. J'en ai trouvé à 5000 par exemple, mais bon, moyenne, tu comptes 10 000 et peut-être 15 000 si t'en veux une en bon état.
Ouais, 10-15 000 euros pour en avoir une en bon état, ouais.
Rappelez-vous quand même que c'est des voitures qui vont avoir tendance à rouiller facilement, qui doivent avoir des petits problèmes de fuite, notamment au niveau des sphères.
Ouais, il faut entretenir. À l'entretien, ouais. Effectivement, parce qu'en plus, tu dois avoir des pièces de carrosserie pour les trouver, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. Il y a quand même, il y a quand même un petit marché pour ça.
Ouais.
Enfin, un petit marché, non, un gros marché.
Il y a eu. J'ai dit le nombre d'exemplaires qu'il y avait eu de sortie de l'attraction.
Eh ben, je sais plus.
Je sais plus si je l'ai dit, mais c'était beaucoup.
Oui.
C'était beaucoup, et bon. Donc il y en a eu beaucoup, par contre je rappelle que ça s'est arrêté en 57, donc entre les années 30 et les années 50, c'est vrai que pour trouver des pièces en 2022 aujourd'hui c'est peut-être un peu plus rare.
Il faudra se méfier ils vont avoir le phénomène de stase, enfin moi j'appelle ça comme ça, c'est des voitures qui n'ont pas beaucoup roulé principalement, oui. Hein, c'est pas des routières, hein, vous allez en trouver avec 50 000 km, vous allez dire c'est bien, mais au final c'est beaucoup quand même, 50 pour ces voitures-là. Ça les encaisse, hein. Mais
Oui, mais toutes les pièces sont séchées, forcément. Non, voilà. Elles ont pas roulé régulièrement. Parce que si t'as roulé régulièrement depuis les années 30, t'as beaucoup plus de kilomètres à la voiture.
Effectivement, donc
ouais.
Voilà, faites attention, mais bon, ça se trouve.
21h, 22h, c'est Starter sur Indestar.
Starter qui continue pour la dernière ligne droite. Et avec vous tous hein, sur indestar.fr, sur toutes les plateformes d'écoute. Après avoir parlé de la marque au double chevron, passons à. De l'actualité un petit peu, on va dire, plus marrante, plus décalée,
plus
même
fun,
si
plus pop
même
culture.
Citroën était assez décalé hein, en son époque.
Oui.
Voilà.
Tu connais Harry Potter?
Alors très peu, j'ai vu le premier au cinéma il y a 3 ans.
C'était le deuxième qu'il fallait regarder. Mince. Là, tu te serais retrouvé parce que dedans, il y a une Ford Anglia Deluxe.
Ok, donc oui, modèle Ford des années quoi, 50-60 par là ?
61.
60, ouais.
Donc oui, une Ford qui est censée voler, qui est censée être invisible. Parce
alors,
que
pas
c'est
la
Harry
base.
Potter.
Hein.
Oui, non. Effectivement, parce qu'en gros, je rappelle l'histoire, Harry Potter et son pote Ron vont rater le train, parce qu'ils vont à l'école en train, à l'école des sorciers, hein, ils sont censés y aller en train.
Je me rappelle dans le premier du quai...
Du quai 9-3-4, effectivement, pour prendre le train, ouais. Le Poudlard Express.
Okay.
Dans le 2, ils vont rater ce fameux train, parce que c'est un mur magique qu'ils doivent traverser, ils vont foncer dedans et le mur va pas être magique, il va
c'est
pas être traversé, donc ils vont vraiment
dans
foncer
la réalité,
dans le mur.
Ouais.
Donc là, cas d'urgence, ils vont se dire, putain, on fait quoi les gars? Bon, on va piquer la bagnole de mon père, elle est magique. Ok, ah. Donc oui, ils piquent la bagnole.
Qui est la fameuse Ford Anglia.
Voilà, ouais. Et donc ils vont voler jusqu'à l'école pour se scratcher dans un magnifique saule pleureur.
Ouais.
Un arbre... Non, saule cogneur, pardon.
Saule cogneur.
Oui, un arbre magique qui du coup a tendance à cogner les trucs. Okay. Et va cogner notamment la bagnole qui va ensuite s'enfuir parce qu'elle est magique. Elle va développer une personnalité, elle va s'enfuir dans une forêt magique.
La voiture qui a une personnalité.
Oui.
Comme la coccinelle, quoi.
C'est ça, elle bouge toute seule, elle fait des trucs toute seule.
Okay.
D'ailleurs, elle va pas trop aimer de se faire un saule cogneur. Elle va les jarter de la bagnole, les deux, avec leur bagage et voilà. Et elle va se tailler.
Et alors pourquoi ne parler de cette voiture?
Pourquoi? Parce que si tu es fan d'Harry Potter, tu te dois d'avoir une Ford. Non, je sais pas. Mais c'est difficile à trouver apparemment une Ford. Mais Cécile Danibé, ouais, j'ai tellement écrit mal que je n'arrive pas à me relire.
Ok.
Cécile Danibé, qui est une propriétaire d'un magasin, le magasin qui s'appelle Baguette et Sortilège, pas loin de Bordeaux, à Beau-Tyran.
Ok, donc elle est déjà fan d'Harry Potter et tout.
Elle est forcément fan d'Harry Potter, ouais. Si tu tiens ce genre de magasin. Sinon, je suis sûr juste à faire de la. Enfin bref, elle est fan et elle s'est toujours dit depuis le lancement de son magasin, putain, j'ai trop envie de refaire la bagnole pour la mettre ne serait-ce que en visite, enfin tu sais, pas en visite, mais en déco.
Ouais.
Voilà, je cherchais le mot. Mmh. En déco. Et bah, s'est mis à chercher justement une Ford Anglia Deluxe et elle a galéré hein, à trouver. Et elle en a finalement trouvé une. Première étape, elle achète la bagnole. Deuxième
elle
étape,
l'a transformée,
l'a customisée en voiture volante. Non,
non, mais en façon Harry Potter.
Exactement, ouais. Avec tous les leviers, tout ce qu'il pourrait y avoir dans le film, mm-hmm. Il fallait qu'elle les mette dedans, mm-hmm. Évidemment. Donc, il fallait qu'elle trouve un carrossier, un préparateur de bagnole. Voilà, il fallait qu'elle trouve ça. Elle en a fait plus d'une dizaine avant de trouver un qui accepterait son projet, qui était pointilleux, ouais. Exigeant et tout ça.
Peep my ride.
Ouais. Fallait juste trouver un gars fan d'Harry Potter, j'ai envie de dire.
Oui, bah oui, c'est ça.
Voilà. Elle le trouve. Et ben, il le fait, hein. Voilà. Et ça donne une voiture plus vraie que nature que vous pouvez aller voir, justement, à Beau-Tyran, à côté de Bordeaux, si vous voulez, vraiment.
Et alors, la question que tout le monde se pose, c'est cette voiture vole-t-elle?
Et ben non, c'est le seul bémol. Elle ne devient même pas invisible non plus, hein.
D'ailleurs. Alors, abracadabra. Elle a volé. Ça marche pas. Je voulais faire un effet et puis c'est reparti derrière.
Effet raté. Mais bon.
Effet raté.
Bravo à Cécile hein, pour son beau projet quand même, parce que ça a dû coûter une blinde. Quoi.
Certainement, mais après je pense que le retour sur investissement doit être plutôt bon.
Bah là, vend pas. C'est juste de la déco.
Oui, non, mais donc, de la déco, mais qu'attire le chaland.
La pub. Mais
ah bah
bon,
oui.
Des magasins d'Harry Potter, il y en a partout maintenant.
Ah bon?
Dans chaque grande ville, à Tours, t'en as un par
ah
exemple.
Ah bon
je... oh, oui. Aux trois sorciers, nous, ça s'appelle par chez nous.
D'accord.
Donc,
c'est spécial
oui,
Harry Potter.
Ouais. Dans chaque grande ville.
Tu fais ton business comme ça?
Oui.
Ouais, c'est.
Est-ce que c'est durable? Je ne sais pas. Est-ce que ça marche? Oui.
Bah, durable, on peut se dire qu'un petit peu quand même, parce que Harry Potter, ça date d'il y a 20 ans. Donc,
au moins. Mais ouais. Bon, au bout d'un moment, je pense que là, il va retomber. Hein,
oui, peut-être.
Même si, bon, on a les animaux fantastiques qui
quand
sortent.
Quand tu t'es déjà fait 15 ans de commerce, déjà, c'est pas mal sur un même thème.
Bien sûr, mais c'est assez récent aussi.
Mais ce qui est drôle, c'est que il n'y a pas, par exemple, de boutique Star Wars dans les villes. Boutique.
Eh ben non.
C'est-à-dire que Harry Potter.
Il y a un marché! Non,
non mais oui. Je me pose la question, mais ouais, je me dis que c'est quand même, on est au top de la pop culture. C'est parce que certainement il y a beaucoup de déclinaisons
Harry
possibles.
Harry Potter est un univers bien plus évolué. Enfin, pas plus évolué, mais.
Il y a plus de choses.
Plus mis dans le marketing, dans le commercial que n'importe quel autre univers.
Ouais.
Même Star Wars, effectivement, comme tu dis, il n'a même pas son propre magasin. Ouais. Enfin, peut-être un, mais tu vois.
Alors,
mais...
je me rappelle qu'ils avaient voulu vendre, je crois que c'est des balais.
Les Nimbus 2000.
Les Nimbus 2000.
Ou des éclairs
mais
de feu.
Sauf qu'ils faisaient un peu vibro. Et du coup, ils avaient arrêté.
Mais c'est excellent.
C'est une vraie affaire. Ouais. Ils ont retiré à la vente parce que.
Parce
voilà,
que
ils s'en servaient pas forcément en tant que balais, quoi.
Mais c'était une bonne
ça
idée.
Ça faisait double utilisation, remarque, tu vas me dire. Mais c'était pour les enfants à la base.
Bah écoute, voilà. Donc,
sur cette info décalée, sondage ?
Petit sondage des familles.
Starter, le sondage.
Alors, mesdames, messieurs, vous êtes plutôt traction ou propulsion ? Alors, évidemment, on parle pas de la traction avant, mais de la façon dont sont actionnées les roues, c'est-à-dire est-ce que le moteur entraîne les roues avant ? Soit une traction.
Si vous avez eu la chance déjà d'avoir eu les deux, d'avoir
ah oui, peut-être
les
pour
deux,
comparer, exactement.
Déjà, c'est vrai que moi, par exemple, je connais que les tractions.
Ah non, ça dépend. Tes parents avaient une Ford.
C'était que des tractions.
C'était une propulsion.
Ah, les Ford Escort, c'était que des tractions.
T'es sûr de toi ?
Le moteur était toujours à l'avant.
Ah, mais ça veut rien dire. Attention.
Ah ouais, je sais pas alors.
Attention, parce que vous pouvez avoir. Non. Tu peux avoir l'emplacement du moteur à l'avant, mais entraîner les roues arrière. C'est d'ailleurs ce qui existe encore pas mal. Alors, si vous avez par exemple une Twingo. Troisième génération, c'est une propulsion avec moteur arrière, entraînement des roues arrière. Mais par contre, il y a genre les BM, les Mercedes, etc. Souvent, elles sont en propulsion, mais tu as le moteur à l'avant, mais actionné par les roues arrière.
Oh, je savais pas.
Voilà. Mais cela dit, la majorité des voitures actuellement est en traction. Mais vous préférez quoi ? Vous, propulsion pour faire des drifts dans les ronds-points, ce qui est idéal, ou une traction avec donc le moteur à l'avant qui entraîne les roues avant ? Vous répondez sur la page Facebook Indestar, sur le compte Indestar Radio sur Insta. On fait le débrief la semaine prochaine dans Starter 21h. Oui. Bonne semaine, à très vite et merci d'être fidèle à Starter. Ciao ciao les amis.
Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.